Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans votre rendez-vous pour Cinéphile Insomniaque, sinon hebdomadaire du moins dès que possible. Bienvenue dans Somniloque qui, cette semaine, fête un anniversaire. Et c'est pour ça que vous n'avez pas participé au sondage habituel. Donc je rappelle pour ceux qui viennent de découvrir l'émission que normalement ce sont les auditeurs qui votent sur Twitter et Instagram @dexetlecinéma pour le sujet de la semaine. Mais cette semaine, non. Cette semaine, c'est un 49-3 parce que comme je le disais, c'est un anniversaire. Il y a 15 épisodes, donc un peu plus que 15 semaines, on va dire environ une vingtaine de semaines, le deuxième confinement faisait rage dans nos cœurs, détruisait nos espoirs dans l'avenir et plongeait le monde dans un imbroglio incertain. Et les salles de cinéma étaient à nouveau fermées. Et cette fermeture, on se disait, bon, voilà, ce sera comme le premier confinement, ça va pas durer, on va rouvrir, etc. Et puis, plus les mois passent, les longs mois passent, et plus cette réouverture, elle paraît incertaine aujourd'hui, presque utopique. En fait, moi, je suis même plus en attente de la réouverture des salles, pour rien vous cacher. Je me suis presque, c'est terrible à dire, mais presque habitué à cette situation, presque résigné face à l'idée qu'on se rassemblera pas de sitôt, peut-être plus jamais, qui sait, pour assister ensemble à l'évermeillement d'une salle qui s'éteint et à la lumière projetée sur un fond noir. Mais est-il venu pour autant le temps de la désespérance? Pas du tout. Je dirais plutôt au contraire qu'il est venu le temps du chaos. Quand on voit tous les débats, toutes les questions, toutes les incertitudes que génère cette situation face à l'avenir de l'industrie cinématographique, face à l'habitude aussi des spectateurs de cinéma, est-ce que même lorsque les salles rouvriront, nous retournerons en masse en salle, parce que peut-être que, tout simplement, les gens se seront habitués à regarder des films différemment, à consommer du contenu différemment. Le fait même que les plus grandes entreprises, les plus grandes boîtes de production de l'art cinématographique se mettent à parler de contenu et non plus de films ou de séries télé lorsqu'ils évoquent leur propre travail, laisse à penser que d'énormes évolutions sont en cours et à quel point est-ce que celles-ci seront définitives ou pas, je n'en sais rien. Et ce séisme qu'a provoqué la Covid dans un art qui est en permanente mutation, c'est aussi l'une des caractéristiques du cinéma dans la mesure où c'est un art mécanique, c'est-à-dire que c'est un art qui dépend d'une technologie et donc qui est en permanence en évolution puisque la technologie qui le rend possible évolue elle-même, eh bien, peut-être pour la première fois finalement de son histoire, l'avenir du cinéma n'est plus réellement soumis aux évolutions technologiques, mais à la nécessité technologique face à la situation de ses spectateurs. Et maintenant que nous sommes là, ensemble, réduits à l'incertitude, plongés dans une forme, sinon de désespoir, au moins de résignation, en tout cas c'est mon cas, je me suis dit que la meilleure façon de célébrer ce 15e épisode, et pour marquer le coup aussi de cet anniversaire qu'est le mois de mars pour l'histoire du cinéma, puisque le mois de mars, c'est le mois où a été diffusé pour la première fois le premier film des Frères Lumière, qui a d'ailleurs été célébré cet anniversaire par l'Institut Lumière, bon, à travers les réseaux sociaux, mais en tout cas, voilà, cet anniversaire a tout de même été célébré. Je me suis dit que face à l'incertitude de l'avenir, il était intéressant de nous replonger dans les origines du cinéma, et que peut-être qu'ensemble, là, à cette heure tardive, en dissertant sur le commencement de cet art que l'on aime tous, on allait peut-être réussir à tirer des plans sur la comète. Ou en tout cas, rêver que l'on pourrait tirer des plans sur la comète. En tout cas, même si on n'y parvient pas, j'espère que vous êtes heureux et heureuses qu'on se retrouve à cette heure-là pour parler un petit peu de cinéma. Et on peut tout de suite commencer avec un sujet donc que j'impose, mais l'actualité s'y prête et mon état d'esprit aussi s'y prête. Nous allons parler des origines du cinéma. La réponse classique, celle qu'on peut lire dans les livres d'histoire, celle qui fait que l'on célèbre ce fameux anniversaire que j'évoquais, elle paraît évidente. Le début du cinéma, c'est les Frères Lumière. C'est le cinématographe. C'est la captation de moments de vie qui ont été rendus possibles par la technologie argentique. Voilà. Alors évidemment, comme pour toute réflexion sur n'importe quel sujet, on pourrait s'arrêter là à ce qui est communément admis, ou alors on pourrait s'aventurer dans un questionnement un petit peu plus approfondi sur la question de l'origine du cinéma. Car si personne ne remet en cause l'idée que le cinématographe ait été une révolution, de là à dire que le cinématographe a inventé le cinéma et que le 7e art est né avec lui, c'est aller un peu vite en besogne. Lorsqu'on dit que le cinématographe a inventé quelque chose, qu'est-ce que le cinématographe a inventé ? Déjà, techniquement, le cinématographe n'a pas inventé réellement grand-chose, puisque ce n'est pas l'appareil des Frères Lumière qui est le premier appareil à permettre la captation du mouvement sur celluloïde. Ce n'est pas cet appareil-là, ni le premier appareil qui permet la projection de ces mêmes images. En fait, ce qu'a fait le cinématographe, c'est combiner un appareil de captation et un appareil de projection, ce qui, avant cette invention des frères Lumière, n'était pas possible. Lorsqu'on remonte aux inventions d'Edison, que sont le kinétoscope et le kinétographe, qui sont deux machines différentes, le kinétographe servant à la captation des images et le kinétoscope servant à leur visionnage, la fusion des deux appareils n'était évidemment pas permise, puisqu'on parle de machines qui sont absolument énormes, très difficiles à transporter et qui ne permettent absolument pas la démocratisation de cet art tel qu'il était conçu, tel qu'il a été rendu possible par le travail des frères Lumière. Bon, c'est pas vraiment par le travail des frères Lumière, parce qu'en fait ils ont racheté le brevet à quelqu'un d'autre. Enfin bref, on va pas partir dans les détails. Ils ont inventé quelque chose, oui, ils ont apporté des améliorations à l'idée d'origine, mais ce n'est pas non plus eux qui ont totalement inventé le processus, non pas pour minimiser l'impact que nous, bons Français, avons eu sur l'existence du cinéma, mais historiquement. C'est un petit peu plus subtil, on va dire, que ce que la légende franchouillarde raconte. Par contre, lorsqu'on évoque le kinétoscope et le kinétographe, qui sont donc des appareils antérieurs à l'invention du cinématographe des frères Lumière, puisque si ma mémoire est bonne, le kinétographe date de 1890, soit 5 ans avant l'invention du cinématographe. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous parle de mots compliqués qui finissent par graphe depuis tout à l'heure? Eh bien, puisque justement, ça va nous permettre de mettre en scène ce débat sur les origines du cinéma à travers ces deux machines, qui, si elles ont un processus relativement similaires, n'ont pas du tout eu le même effet et n'ont pas du tout été utilisés de la même manière. Un débat qui, on va le voir, est en fait plus subtil qu'une simple différence technologique, parce que différence technologique, bien sûr, il y a, car là où le cinématographe est un véritable appareil de projection, c'est-à-dire que, bon, c'est pas exactement la même chose, mais c'est un peu kiff-kiff par rapport à la technologie qui aujourd'hui est utilisée, c'est-à-dire qu'on a un appareil qui projette de la lumière sur un fond blanc. Le kinétoscope, à l'inverse, c'est une machine dans laquelle on regarde à travers des sortes de jumelles et qui fait défiler des images dans la machine. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un petit peu comme si on regardait la pellicule du film directement à travers des lunettes, plutôt que de l'avoir projetée par l'intermédiaire d'un faisceau lumineux sur une surface blanche. Mais ce qui est intéressant dans la différence de considération de l'art cinématographique, c'est qu'Edison et les frères Lumière, lorsqu'ils ont chacun eu entre les mains cette invention, ne l'ont pas du tout utilisée de la même manière. Et là où ça va devenir vertigineux, c'est que lorsque l'on s'intéresse aux films qui ont été produits pour nourrir le kinétoscope et aux films qui ont été produits pour nourrir le cinématographe, entre les Américains et les Français, nous pouvons voir les prémices de deux histoires du cinéma opposées. Si je vous dis cinéma américain, à quoi est-ce que vous pensez? A priori, vous pensez spectacle. C'est la première chose qui vient en tête lorsqu'on pense au cinéma américain. Le cinéma américain, c'est l'art du show. Ce sont les images qui présentent un contenu divertissant, spectaculaire, qui va nous rester en tête simplement parce qu'il y a une mise en scène de ce divertissement qui est incarné à travers des situations farfelues, parfois étranges. Et c'est exactement ce qui s'est passé dès les débuts du travail d'Edison sur le kinétographe. Lorsqu'Edison commande des films pour le kinétographe, il n'a pas vraiment d'idée, en fait, de ce qu'il veut filmer, ou plutôt de ce qu'il veut prendre en photo un certain nombre de fois pour le faire défiler. Enfin voilà, vous savez bien comment ça marchait à l'époque, ce type d'appareil. Et donc il va demander à un monsieur du nom de William Dixon de lui réaliser des petits films, des petits courts-métrages, donc par le biais de prises de photos successives, qui vont chacun raconter quelque chose. Alors, il y en a certains qui ont été perdus, évidemment, mais d'autres nous sont restés, comme par exemple un court-métrage qui illustre un combat de boxe entre chats, et qui était, oui, c'est exactement, voilà, et qui était diffusé voilà, dans les kinétoscopes d'Edison, dans les foires ou les lieux où ils étaient exposés. À l'inverse, par contre, lorsque les frères Lumière, face à la technologie qu'ils avaient entre les mains, se sont dit, mais que pouvons-nous montrer aux spectateurs? Eh bien, ils ont eu une approche très différente. Ils ne se sont pas dit, on va mettre en scène quelque chose qui va divertir les gens, même si, bon, le cinématographe, à ses débuts, était exploité dans les mêmes conditions que le kinétoscope d'Edison, à savoir dans des milieux plutôt forains. En fait, l'objectif, c'était de, voilà, c'était le divertissement des spectateurs par le biais de la découverte de cette étrangeté. La première chose qu'ils vont faire, les frères Lumière, c'est qu'ils vont capter des choses de la vie de tous les jours. Ils vont capter l'entrée d'un train en gare, ils vont capter la sortie de leurs usines, même si, pour la petite anecdote, la sortie de l'usine des frères Lumière a été mise en scène En réalité, il ne s'agit pas de la première prise qui a été effectuée. La première prise était mauvaise et on a demandé aux ouvrières de re-rentrer dans les usines pour ressortir. Donc c'est peut-être le premier acte, entre guillemets, de mise en scène de l'histoire du cinéma. Et là, vous comprenez où je veux en venir. Lorsqu'on se plaint d'un cinéma français naturaliste, à qui le réel est une denrée qui importe, à qui la retranscription de la réalité de ce qui est filmé est une chose qui importe, et qu'on le compare au cinéma américain divertissant et spectaculaire, et ben c'est exactement ce qu'on avait à l'époque. Si vous vouliez voir des chats qui font un combat de boxe, vous alliez regarder le kinétoscope d'Edison. Si vous vouliez voir à quoi ressemblait la vie de tous les jours, l'arrivée d'un train en gare, vous alliez voir le cinématographe des Frères Lumière. Est-ce que c'est aller trop loin que de dire que ces deux philosophies face à l'appareil cinématographique ont généré deux visions diamétralement opposées de ce qu'allait devenir l'art du cinéma? Peut-être. Je ne sais pas. Mais le fait est que c'est quand même une drôle de coïncidence que l'approche de William Dickson, que l'on peut donc qualifier comme étant le premier réalisateur de toute l'histoire, puisque c'est celui qui a mis en scène les petits films pour pouvoir être exploités dans le kinétoscope d'Edison, et que celui des Frères Lumière ait été de filmer des choses qui avaient attrait à la vie de tous les jours. Ce qui veut dire, en réalité, si l'on apporte une conclusion à cette comparaison, que dès son origine, l'opposition entre magie du cinéma et effort documentaire de captation existait dès l'invention même de la technologie qui a rendu cet art possible. Et je trouve absolument extraordinaire que, malgré toutes ces évolutions technologiques, finalement, en bout de course, le cinéma n'est pas tellement changé. Les approches de l'art cinématographique n'est pas tellement changé. La philosophie que l'on a lorsqu'on a une caméra entre les mains n'a pas réellement changé. Et que cette opposition entre ceux qu'on va qualifier de cinéastes plutôt auteuristes et ceux qui, au contraire, voient dans le cinéma une possibilité de transporter les spectateurs dans un monde différent, nouveau, de les divertir, de leur proposer du show et du spectacle. Et ben c'est exactement le même conflit que celui qui était à l'origine entre Edison et les Frères Lumière. Conflit qui, entendons-nous bien, est un conflit purement métaphorique, symbolique et qui n'existe que rétrospectivement dans l'histoire. Qui a gagné cette guéguerre idéologique entre Edison et les Frères Lumière? Ben c'est évidemment Edison. Parce que qu'est-ce qu'on a eu dès que le cinématographe a commencé à se développer en France? On a eu Méliès. Notre grand artiste, notre grand réalisateur de films extraordinaires, celui qu'on aime citer en exemple du fait que, mais si en France on peut faire des films de genre, puisque l'un des premiers grands réalisateurs de l'histoire du cinéma était un réalisateur de films de genre, justement. Méliès, qui étrangement d'ailleurs est un personnage qui n'est pas très présent, je trouve, dans l'univers cinématographique, bon, à part dans Hugo Cabret, bien sûr, où Martin Scorsese lui rend un hommage très appuyé. D'ailleurs, c'est intéressant de voir à quel point le cinéma s'intéresse assez peu à son propre passé, c'est-à-dire à ses propres évolutions, parle beaucoup d'autre chose que de ceux qui ont réellement rendu le cinéma possible. On va plus s'intéresser aux stars hollywoodiennes ou aux grands acteurs, etc., plutôt que de s'intéresser à ceux qui ont inventé le processus cinématographique. Il me semble que nous n'avons jamais eu de film sur les Frères Lumière. Je peux me tromper, et je crois que les films qui ont été, on va dire, consacrés à Edison n'abordent pas vraiment son rapport à la création du kinétoscope et du kinétographe, ce qui paraît bien étrange. Comme quoi le cinéma est un art qui cherche finalement beaucoup plus à se constituer une mythologie qu'à s'interroger sur sa propre histoire. Ça, ce serait un autre débat très intéressant, la question du mythe au cinéma, comment s'est créé le mythe du cinéma, peut-être pour un prochain épisode, on ne sait pas. Mais en tout cas, voilà, j'avais envie de partager ça ce soir avec vous. Cette idée que, même si on ne regarde pas trop notre propre passé, lorsqu'on est cinéaste, et très peu de cinéastes d'ailleurs citent comme influence Méliès, ou encore moins les Frères Lumière et William Dickson, mais c'est intéressant de voir que finalement la magie qu'ils ont su insuffler dès les premiers balbutiements de l'art cinématographique, eh ben, elle se perpétue. Et qu'aujourd'hui encore, ce débat entre vérité et magie, entre spectacle et naturalisme, eh ben, il continue de se perpétuer dans les créations cinématographiques actuelles. Et finalement, peut-être que la chose la plus exceptionnelle qu'il y a à tirer du cinéma lorsqu'on le regarde dans sa globalité, c'est que même si c'est un art qui est en perpétuelle évolution, qui est en perpétuelle remise en question de ses a priori, par exemple jusqu'à aujourd'hui, par la situation sanitaire, questionner l'importance même de son lieu de diffusion, ça reste un art qui finalement n'a pas beaucoup changé. puisque les obsessions de ceux qui y voient un outil formidable pour dépeindre le monde ou pour en dépeindre un autre de monde restent exactement les mêmes. Voilà, c'était la petite poésie philosophique autour des origines du cinéma que j'avais à vous partager ce soir. Je remercie les gens qui font des dons sur mon compte Patreon pour me soutenir financièrement, pour continuer de croire à ce que je fais et pour croire à ce que je vais avoir à vous proposer. J'espère que vous allez faire de beaux rêves sur ces réflexions concernant les origines du cinéma. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je vous dis rendez-vous à très vite pour encore plus de cinéma. Et si jamais vous écoutez ce podcast en journée, eh bien regardez autour de vous. Et dites-vous que si vous sortez votre téléphone portable pour filmer ce qui vous arrive, eh bien vous ferez exactement la même chose que les frères Lumière lorsqu'ils ont allumé pour la première fois leur cinématographe. Salut tout le monde.